à bien lire ces lectures, il y a un certain nombre d'éléments qu'il nous faut regarder, scruter avec davantage de précision pour essayer de comprendre ce que cela peut bien vouloir dire, alors qu'a priori, il y a un petit problème. Heureusement, nous avons comme soutien, à la fois pour les phrases que propose Jésus à Satan, il est dit, Jésus cite à chaque fois le Deutéronome, ce livre que nous avons lu en première lecture et qui est une deuxième écriture de la loi. Et nous en avons lu un extrait. C'était la première lecture. Et dans cet extrait, déjà, il y a quelque chose à comprendre qui peut nous aider à rejoindre ce que le CCFD nous propose pour devenir des semeurs de paix. Dans cette fin de lecture du code deutéronomique, c'est la fin de cette lecture que Moïse fait à son peuple après avoir fait son premier discours, il présente un lien viscéral du peuple à la terre. On ne peut pas séparer le peuple d'Israël de sa terre. C'est viscéral. Et cette terre, c'est quoi dans ce texte que nous venons de lire? C'est une terre où ruisselle le lait et le miel. Ce n'est donc pas une terre cultivée. Ce n'est pas encore une terre entretenue. C'est une terre sauvage. Le lait est le signe qu'il y a de l'élevage et que les bêtes broutent l'herbe qu'il y a là. Aucune culture. Et les seuls qui vont développer de la culture, ce sont les abeilles, et produire leur miel. On est donc dans une terre ouverte, une terre prête à l'ouvrage, une terre où il n'y a encore rien et où il faut tout imaginer, comme un champ ouvert pour quelque chose de nouveau, où on va bâtir quelque chose qui va naître, qui va croître. Et c'est peut-être une terre où il y a des semeurs de paix. Voilà la terre promise. Dans l'Évangile, cette terre de paix, cette terre ouverte où il faut ouvrir quelque chose, elle est un désert. Contrairement à ce que l'on peut dire, le désert n'est pas un lieu vide, inhabité, dans l'isolation. En Terre Sainte, le désert est un lieu de carrefour, un lieu de rencontre des commerçants, un lieu de brigandage. Et on le voit dans le fameux texte du bon samaritain sur la route entre Jérusalem et Jéricho. C'est une terre où l'on rencontre du monde. C'est une terre où il peut se passer toutes sortes de choses qui peuvent nous transformer dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Luc présente cette terre, ce désert où Jésus est poussé par l'Esprit Saint. Et on sait que chez Luc, l'Esprit Saint prend beaucoup de place. Il prend tellement de place que Luc souligne dans ce texte le fait que Jésus est rempli d'Esprit Saint. Et ce rempli fait écho à la plénitude de la gloire de Dieu, la plénitude de l'accomplissement des Écritures. Comment se fait-il alors que Jésus rempli d'Esprit Saint puisse être tenté? Grande question. Je n'ai pas la réponse. Ou en tout cas, je vous la laisse travailler. Mais c'est étonnant. Il y a aussi une deuxième chose qui semble étrange. Luc reprend bien dans son texte l'idée de Marc sur les 40 jours dans le désert. Et il reprend aussi les trois tentations de Matthieu, mais en plaçant celle du temple à la fin pour terminer par celle-là. Et il reprend aussi l'idée de Matthieu qui insiste sur les 40 jours de jeûne. Du coup, chez Luc, on a Jésus qui jeûne pendant 40 jours et ce n'est qu'à l'issue de ces 40 jours qu'il commence à avoir faim. Je ne sais pas comment il fait. Est-il pleinement homme ? Certes, il est pleinement divin, mais en tout cas, peut-être faut-il voir que c'est parce qu'il est dans une situation de faiblesse à l'issue de ce temps que l'esprit de division, le diable, peut venir le rencontrer. Et vous avez remarqué, sans doute, qu'il y a une pierre au début et une pierre à la fin. Il aurait été préférable que la dernière des pierres se transforme en pain pour servir de coussin pour la chute de Jésus, depuis le pinacle du temple. La première tentation, le diable propose à Jésus de fixer son regard sur une pierre. Tiens donc, cela se rapprocherait-il de ce qui se passe avec l'arbre dans le jardin d'Éden? Parce que lorsque l'on fixe une chose, un objet, c'est là que la convoitise peut venir. On ne voit plus que ça. On oublie le reste, on en devient obsédé, on focalise là-dessus et tout le reste ne compte plus. La réponse de Jésus vient permettre d'échapper à cette focalisation, à cette obsession sur l'objet, en se mettant lui-même, mais en mettant chaque personne tentée de cette façon, de se mettre en relation à un autre. Par la parole, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En regardant cette pierre qui aurait pu devenir du pain, Jésus ouvre un champ de réflexion sur une façon de vivre faite de relations, dans une simplicité de vie que l'on peut éventuellement faire relier au vœu de pauvreté. Et dans la proposition que Jésus fait, il ne fait que citer le livre du Deutéronome. Dans la deuxième tentation, on augmente. Le diable veut l'emmener plus haut, encore plus haut, toujours plus haut. Cela rappelle bien des choses. Le diable lui propose tous les royaumes. Et il lui fait regarder en un instant. Ah, l'instant. La baguette magique. Le claquement de doigts. Un clin d'œil. Ça va si vite. Mais est-ce que pour être maître de tous les royaumes de la terre, cela se fait-il en un clin d'œil, avec facilité? Il faut du temps, bien au contraire. Et avoir le pouvoir, entre guillemets, sur des royaumes, c'est peut-être savoir se mettre à leur service. Et en tout cas, pas au service de soi-même. Ni se prosterner devant quelque chose qui ressemble, là encore, à du pouvoir personnel, à de l'obsession personnelle, à de la convoitise. Et finalement, on le voit bien, et c'est mis dans la bouche du diable, tous ces royaumes, tous ces pouvoirs, tout ce pouvoir, toute cette gloire m'ont été livrés entre mes mains. Livrés. Ah, si les royaumes sont livrés entre les mains du diable, on sait que dans quelques pages suivantes, Jésus sera livré. Mais dites-moi, quel est le contraire de livré? N'est-ce pas délivré? N'est-ce pas devenir libre? Et Jésus se libère en citant de nouveau un passage du Deutéronome. Et en séparant le domaine du gouvernement et le domaine du culte et de la relation à Dieu. Et c'est cela qui l'intéresse. Et il renvoie encore une fois à la relation à Dieu dans une obéissance filiale. Ah tiens, voilà le deuxième, l'obéissance. Enfin, c'est le face-à-face. Parole contre parole. Le temple, lieu saint, et le diable l'emmène là-bas. Comment le diable peut-il amener Jésus au temple, le lieu de la plus grande force de la présence de Dieu? Comment le diable peut-il tenir? Il l'emmène en haut du temple pour qu'il tente Dieu. Et lorsqu'on tente quelqu'un, ça veut dire qu'on veut le posséder. Lorsqu'on tente quelqu'un, ça veut dire qu'on veut l'utiliser. On veut mettre la main sur lui, on veut lui faire faire des choses en ne respectant pas sa liberté. On est bien là dans un problème de chasteté, de juste distance entre les personnes. C'est ça la chasteté, hein? C'est avoir une relation honnête entre deux personnes sans que l'une mette la main sur l'autre de manière psychologique, physique ou autre. C'est ce que propose le diable à Jésus. Et c'est ce que refuse Jésus. Chacun est à sa place, libre et volontaire, et il ne peut accéder à la demande du diable. Et il renvoie encore une fois au Deutéronome. Et là, on voit bien un petit peu la mise en proportion des textes, le diable avait cité simplement un psaume. Un psaume, c'est beaucoup. Mais face au Deutéronome, c'est pas grand-chose. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Voilà pourquoi peut-être Luc insiste tant à la fin de son texte en disant que le diable a épuisé les formes de tentation. Dans ces trois tentations, nous pouvons retrouver tout ce que nous pouvons faire en tombant dans le piège. Au travers de ces trois tentations initiales, primaires, peuvent se défracter, se déployer toute l'imagination humaine pour vivre les tentations. Au travers de ces trois tentations, je vous invite pendant ce carême à regarder, à scruter votre vie pour savoir comment chacune utilise son langage en relation avec vous-même pour essayer de se développer et comment, du coup, vous essayez de répondre en faisant obstacle à cette tentation. Ainsi, si nous arrivons à repousser ces tentations, comme le fait Jésus, il n'y a pas de division en nous-mêmes. Il n'y a pas de division avec les autres. Il n'y a pas de division avec Dieu. C'est un monde de paix, un monde en harmonie qui se construit peu à peu, une terre où coule le lait et le miel, où tout est à inventer. Bonne découverte.